Bon, ben comme l'habituel, je suis content d'être ici avec vous. Je reconnais jusqu'à quel point que c'est une grande responsabilité de partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Puis j'aime la façon aussi que la façon que Dieu souvent va venir valider justement qu'est-ce qu'il nous a mis à cœur lorsque l'équipe de louange choisit un cantique. Comme grâce infinie, Dieu nous a fait des vases d'argile, parce que ça tombe vraiment dans le thème et le texte que nous allons regarder ce matin. J'ai comme titre ce matin, Un acteur ne meurt jamais. On le sait sur le côté cinéma. Qu'il y a plein des acteurs qu'on connaît, des actrices. Ça fait longtemps qu'ils sont morts, mais on les voit à l'écran comme s'ils étaient jeunes, pleins de vie, qui nous racontent encore des histoires. On dirait que, tu sais, même les vieux, vieux films silencieux, là, avec Chaplin, là, avec ses foleries qu'il faisait. Ça fait longtemps qu'il est parti, mais on a encore ses films. C'est comme Chaplin est encore vivant. C'est un peu l'idée que j'essaie de transmettre avec ce message, mais un peu des acteurs un peu différents. Que nous sommes des acteurs au service de Dieu. J'aurais pu utiliser le mot personnage, mais il semble une personne, c'est juste une personne. Il semble. Quand on parle des personnages de la Bible, les héros de la foi, nous, on le sait qu'est-ce que ça veut dire. Il semble le mot personnage, c'est quand même trop ordinaire. Donc, j'ai choisi le mot acteur, sachant que, ouais, il pourrait apporter confusion parce qu'on pense toujours au cinéma. Mais dans la parole de Dieu, il y a des acteurs, ceux qui ont agi pour Dieu. Hein? C'est pour pourquoi j'ai choisi le mot acteur? Parce que dans le mot acteur, on a l'idée de action, de ceux qui ont passé à l'action. Et là, j'ai oublié ma manette, ça va être dur pour avancer les clichés. Ou les clichés, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on est supposé dire. Les clichés, bon. Clichés, bon, j'ai les clichés, puis j'ai les clichés, je ne sais plus qu'est-ce que c'est, la prochaine slide. Bon, le verset principal sur lequel tourne le thème, c'est celui-ci. Romains 11, 29, où ce que c'est écrit, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ça veut dire que ça ne meurt jamais. C'est là où ce qui est venu l'idée de, à partir de ce verset-là. On sait que Paul, la dernière fois, nous a partagé les trois assurances, puis il a tiré des textes en Romains. Et puis, c'est un peu la suite que je fais. Donc, le mot acteur, action. Pensez à l'action des personnages qui ont passé à l'action. Je vous ai déjà partagé dans le passé que ma préférence de lecture biblique, ce sont les narratives, les grandes histoires. Ça se lit comme un roman, c'est plein d'action, on peut s'imaginer qu'est-ce que ça aurait pu être, qu'est-ce que ça aurait pu avoir l'air. Et puis on est fasciné de voir des grandes histoires comme celui de Joseph, de Jacob, d'Abraham, de Noé, etc. Là, je pourrais faire une grande liste. Il y en a une grande liste d'acteurs qui nous sont donnés dans la parole de Dieu. Mais le mot acteur ici, c'est pas parce que je parle du théâtre, mais plutôt une personne qui est choisie par Dieu. Dieu choisit de placer sa puissance et son œuvre dans des vases d'argile. Dieu choisit. Cette personne-là est appelée à jouer un rôle qui est déterminant parce que Dieu veut opérer une œuvre. Il veut toucher une génération, il veut toucher une famille, il veut toucher un peuple, et il se sert des gens tout à fait bien ordinaires pour le faire. Ces gens-là, ces acteurs-là, sont placés à un moment précis dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas comme Dieu a œuvré une œuvre et puis là, il se retire pour simplement être spectateur de la suite des choses. Dieu agit dans chaque génération, dans chaque journée du quotidien. Il est ici avec nous ce matin, il agit encore. Et il choisit dans notre génération des acteurs. Il vous choisit, il me choisit. Il veut accomplir justement son œuvre divine. Dieu ne travaille pas au hasard. Même si dans le quotidien, on dirait que notre vie est entourée de tout genre d'hasard, de toutes sortes de choses qui se passent, puis on dit, mais ça a l'air comme du hasard. Mais pourquoi prier pour la sécurité, pour ceux qui sont sur la route, si c'est du hasard? Dieu peut intercéder dans les choses les plus banales de la vie quotidienne pour accomplir son œuvre. De permettre des choses, des épreuves, mais aussi de nous garder de certaines épreuves. La Bible n'est pas l'histoire d'un héros humain, mais plutôt l'histoire d'un Dieu fidèle qui agit à travers qui? Ses acteurs. Un verset de l'apôtre Paul exprime avec une grande justesse cette vérité. 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 27 à 29 nous disent, c'est écrit ici sur l'écran, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Donc souvent, quand Dieu choisit son acteur ou actrice, ce sont des fous puis des folles. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. Mais dans le sens que dans les yeux de Dieu, ça fait du sens. Mais pour nous, ça semble que ça n'a pas d'allure. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. On l'a mentionné tantôt par rapport au repas du Seigneur. Un petit pain et puis des petites coupes. Mais combien que c'est précieux pour nous de les partager. Pas parce qu'on aime manger le pain ou boire la petite coupe. Ce n'est pas le goût du jus, du raisin ou le vin, si vous prenez le vin. Qui est important, c'est qu'est-ce qui est derrière le symbole. C'est là où ce que c'est grandiose pour nous, ça pourrait être une folie. Des gens qui se ramassent le dimanche pour manger une petite croûte de pain. Écoute, on peut manger du pain à volonté chez nous. Puis là, toute une groupe de personnages de la région du Témiscamingue puis de l'Abitibi viennent ensemble, puis on s'assoit, puis on regarde une table avec un pain dessus, avec des petits blocs. Puis pour nous, ben, c'est précieux. Les gens qui nous regarderaient disent, ben, c'est une folie. Ça semble passer son dimanche à s'asseoir, puis chanter, puis prendre du pain, puis du vin. C'est quoi ça? Peut-être j'exagère un peu, mais anyway, c'est pour faire passer l'idée. Ici que Paul nous dit, Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc, si Dieu a trouvé en moi une personne dans laquelle il voulait lui donner un don pour partager la parole, ben c'est parce qu'il a choisi un fou. Suis pas un grand orateur, je suis content de partager qu'est-ce que le Seigneur me met à cœur. Puis je vous ai expliqué avant là, pourquoi j'apprécie tellement le don. C'est que pour moi, je suis un homme paresseux. Et si je ne serais pas responsable pour préparer de l'enseignement, je ne serais pas enseigné. Parce que je ne m'enseignerais pas moi-même. Dieu connaissait comment que j'étais paresseux. C'est ça que Dieu a vu en moi. Un homme paresseux qui cherche la vie facile. Et puis il dit, ça, ce gars-là, là, si je le laisse à lui-même, là, il n'étudiera pas sa Bible comme il devrait. Il ne lira pas sa Bible comme il devrait. Il n'irait pas chercher les trésors qui sont compris dans la parole de Dieu. Pour d'autres, c'est tout à fait naturel. On puise, on veut aller chercher, on cherche, on a un zèle pour la parole de Dieu. Chacun des héros de la foi, là, qu'on voit dans la parole, puis il y en a plusieurs qui sont énumérés en Hébreux chapitre 11, c'était de la folerie. Imaginez Paul. Nous, on a une tendance de mettre Paul là, comme un esthète pour dire « Hey, wow, c'est un super-héro! » Mais Paul, c'est lui qui courait après les chrétiens pour les mettre à mort, pour les juger, pour de faire de leur vie une vie misérable. Il était contre le peuple de Dieu. Pourquoi choisir quelqu'un qui est contre ton peuple? Dans les yeux de l'homme, c'est une folerie. Ça n'aurait pas été un candidat que nous, on aurait embauché pour faire le ministère. Dieu, il est sage, pareil. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Donc, ce matin, en quelques parties, on va regarder quelques principes par rapport à est-ce que nous sommes acteurs pour Dieu? Est-ce qu'on a été appelé à un ministère? Puis, je ne veux pas que vous pensiez, le ministère, là, c'est une grosse affaire. On a une pensée de dire, ah, un ministère, là, c'est un gros organisme, puis ça a un siège social, puis ça a un conseil d'administration, puis ça a toutes sortes d'affaires pour gérer, puis faire annoncer l'Évangile. Non, je ne veux pas vous dire qu'on est tous appelés à faire des grandes, grandes, grandes choses. Des fois, notre ministère, là, c'est très personnel, dans un cercle très petit, où ce que le Seigneur nous place, mais c'est quand même un ministère aussi important que les gros ministères que Dieu voudrait opérer aujourd'hui. Donc, on est tous invités ce matin de voir comment Dieu agit, comment il choisit, comment il équipe son Église. Et de peut-être réfléchir, mais c'est quoi, Seigneur, le ministère que tu me confies? Qu'est-ce que tu veux de moi? Quel don m'as-tu donné? Comment puis-je utiliser ce don-là? Le premier principe, c'est que Dieu a toujours travaillé par des acteurs. Tu commences avec ta Bible, là, puis par le temps que tu arrives à Genèse chapitre 3, après la chute, là, l'histoire commence avec toutes les, des fois, des stupidités que l'homme a fait. On pense à la tour de Babel comme exemple. C'est ça que les enfants sont en train d'apprendre dans la petite classe à côté, là. Les histoires de la Bible. Mais dès le début, Dieu s'est servi de personnage, d'acteur, pour accomplir un plan de rédemption dès le début. Il a toujours travaillé par des acteurs. Jérémie le prophète, choisi de Dieu pour être prophète, écrit ceci, et c'est Dieu qui parle et dit, « Avant que t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. » Le bébé n'est pas encore né. Jérémie n'est même pas au monde encore. Dieu l'a créé dans le ventre de sa mère. Et puis Dieu le connaissait déjà. Puis Dieu l'avait déjà choisi pour être prophète en Israël. Parce que Dieu travaille. Dieu agit. Dieu choisit ses acteurs. C'est le travail de Dieu. Ce n'est pas le nôtre. Dieu ne découvre pas ses acteurs. Ce n'est pas comme Dieu cherche des candidats. Ah, lui, il a l'air fin. On va choisir lui. Il est content de celui qui est fin, mais des fois, dans la sagesse de Dieu, il va aller chercher le fou pour dire, ouais, il va servir de ça. Puis le verset qu'on a lu en 1 Corinthiens nous rappelle pourquoi. Pour que l'homme ne puisse pas se vanter. Hein, celui qui est fin, là, qui se présenterait devant le Seigneur pour être candidat, pour faire une grande œuvre, souvent Dieu ne le choisira pas. Parce que l'homme a une tendance de se glorifier lui-même. J'ai beaucoup de mes étudiants qui font les cours Emmaüs dans leurs requêtes de prière qui me demandent souvent, prie que je puisse avoir un don, un certain don. Ils vont même l'énumérer. Il y en a qui disent, je voudrais vraiment avoir le don de guérison. Là. Je veux être capable de guérir du monde, des foules de personnes. Ils cherchent des dons qui sont voyants. Ils veulent être les opérateurs. Ils veulent être les acteurs pour des guérisons. Je leur rappelle, écoute, si le Seigneur t'a donné le don pour la guérison, il va le faire opérer en toi. Ce n'est pas à toi de le choisir ou de le chercher. Dieu va t'équiper si c'est dans sa volonté. Cherche plutôt le don que tu as déjà pour voir qu'est-ce qu'elle est, puis mets-le au service du Seigneur et de l'Église. Dieu découvre pas ses acteurs, mais il les choisit. Pensons à ceux-là ici qu'on connaît très bien, Noé. Noé a été choisi de Dieu pour préserver l'humanité, parce que Dieu voulait se défaire de toute l'humanité. C'était devenu tellement méchant que Dieu regrettait le fait qu'il avait créé l'homme. Mais le cœur de Dieu savait aussi qu'il y avait un amour pour l'humanité. Et puis, ce n'était pas un jugement pour être final. Donc, il met de côté Noé, sa famille, pour préserver l'humanité, mais il l'avait choisi. Abraham a été choisi pour fonder un peuple, Genèse 12 à 25. Moïse pour délivrer Israël. David pour établir une lignée. Esther pour un temps critique dans l'histoire d'Israël. Ça, c'est juste quelques exemples. Il y en aurait des pages puis des pages. On pourrait juste faire ça ce matin. De énoncer puis de montrer combien que Dieu choisit des gens, des acteurs pour faire son œuvre. Mais qu'est-ce que j'ai mis en jaune sur l'écran? C'est qu'est-ce qui est important? C'est de voir qu'il y a eu un temps de préparation. Dieu a préparé les acteurs pour faire l'œuvre de Dieu. Il les a équipés. C'était pas un automatisme. Le temps de préparation pour Noé fut environ 100 ans en tout. Et bâtir un bateau qui était aussi gros, là, on n'a pas les outils qu'on a aujourd'hui, là. On n'allait pas au BMR juste ramasser de la planche, puis on va se faire un bateau. C'était du travail fort. Mais dans ces 100 ans-là, ce n'est pas comme Dieu a dit, bien, fais le bateau, puis après ça, bien, on se parlera, là. Ça fut un 100 ans où ce que Dieu opère en Noé, de changer son caractère, de le faire grandir, de savoir qu'est-ce que c'était que Dieu lui appelait pour faire le travail que Dieu avait préparé. Abraham, son temps de préparation, environ 25 ans, du moment où ce qu'il a eu reçu la promesse qu'un jour il aurait un fils. Avec qui? Sarah, Saraï. Mais 25 ans se passent avant que le fils y est né. Moïse pour délivrer Israël, 80 ans. En deux parties de 40 ans. 40 ans dans l'Égypte, comme prince d'Égypte, puis 40 ans à passer sa journée à regarder les moutons, pour faire sûr qu'il ne s'évadait pas. Il est rendu berger. Dans le désert, ayant fui l'Égypte, il avait peur de mourir. David, temps de préparation environ 15 à 20 ans. Du moment où ce qu'il a été choisi, oint, jusqu'au moment qu'il est placé sur le trône d'Israël. Esther, elle, on ne connaît pas son temps de préparation, mais on dit probablement 4 à 5 ans, du temps qu'elle avait épousé le roi, et puis le temps où ce que l'enjeu du peuple d'Israël est mis en question, et puis Dieu opère dans la vie politique de cette nation. So, le premier principe, c'est que ce n'est pas quelque chose à chercher, puis dire, ben, écoute, je vais aller à l'école, puis je vais apprendre à être pasteur. Ce n'est pas méchant d'aller à l'école si déjà le Seigneur t'a mis à cœur que ton don va être celui d'un pasteur. Puis ceux de l'Église vont reconnaître en toi un pasteur futur. Ce n'est pas comme on se décide, là, on va ouvrir, le calendrier d'une école, là, puis voir quel cours qu'on peut prendre, puis là, moi je vais faire ça va être mon métier. C'est soit ça ou la construction, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Excuse-moi, j'aurais pas dû peut-être choisir construction. Tout le monde va passer à Paul. Dieu a déjà une œuvre pour chacun de nous. Et puis il va nous équiper pour le faire. Puis Dieu, ben, on a déjà vu des fois, c'est quasiment comme pour nous, ça n'a pas de bon sens. Qui sont des personnes qu'il a choisies? Hein, les acteurs principaux là, de la parole de Dieu, là, hey, ce n'est pas des gars nécessairement instruits, des bergers, des veuves, des prisonniers, des exilés. Des pêcheurs de poissons. N'y en a pas un d'eux autres, là, j'imagine, qui ont fait de l'université. C'était pas toutes des personnes instruites. Parce que ça va dans le contraire de la logique humaine. Nous, on pense que si quelqu'un veut avoir un poste important, il faut qu'il ait fait beaucoup d'études. Avoir été à l'école, être bien instruit, préparé dans une école pour faire un travail. Puis oui, c'est sûr, dans certains domaines, si j'ai un docteur, j'espère qu'il a fait de l'université. Je veux pas en avoir un, là, qu'il a juste décidé qu'il est bon avec un couteau, là. Mais Dieu, il a choisi des personnes tout à fait bien ordinaires. Être acteur de Dieu ne dépend ni du rang social, ni de notre passé, mais l'appel à l'obéissance. Combien de fois dans les Épîtres on voit Paul qui regarde son passé, puis comme il pleure un peu de l'homme qu'il était? Il aurait pu dire à Dieu, écoute, merci pour l'offre, Seigneur, mais je ne suis pas qualifié. Je viens juste de témoigner la mort d'Étienne. Puis c'est moi qui tenais les manteaux de tous les autres, puis j'étais là, allez-y! Passez-moi une roche, moi, je vais le lapider moi aussi. Il était là, lui, il allait contre les chrétiens. Il aurait pu se dire, oh, non, Seigneur, non, pas moi. Puis des fois, on peut dire la même chose, Seigneur, pas moi. Je suis pas assez bon, je suis pas assez fort. Pas assez courageux, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas plein d'affaires. Si on penserait tous de même, là, il n'y en aurait pas un ici à ce matin, là, on aurait resté tous à la maison. Deuxième principe, qui est vraiment un acteur de Dieu? Qui est un personnage utilisé par Dieu? Bien, premièrement, un acteur, il est appelé de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui se désigne lui-même pour faire le travail. Je l'ai déjà mentionné, on ne cherche pas de faire une vocation. On ne regarde pas la liste de tous les métiers pour dire, c'est celle-là, je veux être pasteur. Je sais qu'il y en a qui le font, là. Mais souvent, c'est les pasteurs les moins équipés, les moins smart, dans le sens qu'ils sont pas vraiment doués pour avoir le don dans lequel ils sont appelés. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. En autre mot, en parlant à ses disciples et ceux qui le suivaient, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Tu sais, on pourrait penser, bien, moi, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. On le chante même, le petit chant. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oups! Le verset nous dit, Dieu nous a choisis. Paul en a parlé la semaine dernière. Dieu nous choisit. Dieu nous équipe. Puis nous, on est les bénéficiaires. Oui, il y a un côté responsabilité humaine où ce qu'on répond oui à l'appel, où ce que Dieu nous appelle, puis on le rejette pas, on l'accepte, puis on s'approprie du salut qui est offert par grâce. Il y a une responsabilité humaine, mais Dieu choisit. On n'est pas auto-désigné. Un véritable acteur ne se promoue pas. T'sais, il ne travaille pas dans l'arrière-plan pour essayer de se faire important. Ben, vous le savez, on a nos élections pour le CA une fois par année, là, puis on parle des élections. Et je te dis, il n'y a pas bien ben du monde qui court en avant. Moi, je veux être le président. Hein? Des fois, il faut coaxer les gens un peu. On est tellement pas self-promoter, qui est une bonne chose, mais en même temps, si Dieu vous appelle, par exemple, il ne faut pas se promouvoir, mais il faut répondre oui. Le Seigneur sait que ça prend des gens pour travailler dans l'Église. On ne se fabrique pas notre propre ministère, parce que si Dieu n'est pas dedans, là, ça ne marchera pas. On ne doit pas chercher de la visibilité. Un acteur répond à un appel intérieur qui est confirmé par Dieu. Puis souvent, ça commence avec une question parce qu'on a un soupçon. Il y a quelque chose qui vient chercher nos cœurs. On a un soupçon que le Seigneur nous appelle à quelque chose. Puis là, on dit au Seigneur, mais c'est-tu vrai? Puis là, on laisse mijoter ça un peu, puis il semble que l'appel devient de plus en plus fort. Gérard nous a partagé son témoignage au dernier déjeuner des hommes. Gérard n'est pas assis à la table de cuisine avec les enfants puis Angéline pour dire, bon, let's go, on va aller faire du pastorat à Hearst. Seigneur, il avait mis à cœur. Il avait été au camp familial. Il y avait un prédicateur qui parlait, qui amenait un enseignement où ce que le Seigneur a venu toucher son cœur pour dire, écoute, je t'active, je t'équipe, je te donne un nouveau boulot, je te donne un nouveau travail. Avant de songer d'être impliqué dans le ministère Emmaüs, je faisais les cours Emmaüs. Moi, j'étais simplement étudiant des cours Emmaüs parce que je voulais apprendre. Je trouvais que la profondeur de ma connaissance de Dieu dans sa parole n'était pas encore assez importante. Puis là, bien, on est nommé comme ancien de l'Église. Puis je me disais, hey, fou, ancien d'Église, les gens vont venir me poser bien des questions. Ils vont vouloir avoir des réponses. C'est là, je deviens étudiant Emmaüs. Et à travers de ça, à travers de ces cours-là, bien, c'est comme Dieu les avait choisis pour moi, mais c'est là où il m'a introduit la possibilité d'être équipé pour travailler dans ce ministère. Je n'ai pas cherché ça. Je cherchais la retraite. On était à la retraite. Hey, the good life. S'assire dans un bateau. Ah, sur le lac, on était bien. On n'a plus besoin de se lever, mettre un saut, puis repasser les culottes, puis la chemise, puis la cravate pour aller travailler. On est-tu bien? Rester en pyjama toute la journée? Seigneur, il dit, t'es bien trop jeune pour garder tes pyjamas, mon homme. C'est temps que tu travailles dans le ministère Emmaüs. Dieu choisit. Un acteur a une mission, mais pas seulement juste le don. On a le don. Dieu nous donne le don pour le faire. Sinon, comment faire le travail si on n'a pas le don pour le faire? Puis la question se soulève souvent, mais c'est quoi mon don? Demande-le à quelqu'un. Demande à tes frères et sœurs à l'église. Pour toi, là, quel est le don que tu vois en moi? Parce que moi, je ne le vois pas, ce n'est pas évident. Ils vont vous le dire. Tes enfants vont vous le dire. Ceux qui te connaissent vont te le dire. Éphésiens 4:7, chacun de nous a reçu la grâce selon la mesure du don de Christ. Chacun. On a tous. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y en a pas un ici qui peut dire, j'ai pas de don. Donc, le Seigneur m'appelle à rien. Le Seigneur t'a donné un don. Mais des fois, oui, il faut le découvrir. Il faut s'asseoir puis méditer là-dessus puis demander au Seigneur, mais montre-moi mon don. Développe-le parce que Seigneur, je veux l'utiliser pour toi. Les dons servent la mission, ce n'est pas le contraire. On ne choisit pas une mission, puis ensuite on va aller s'éduquer pour comment faire le ministère. Le don dans sa mission peut devenir souvent, excuse, le don sans mission peut facilement devenir l'orgueil. La mission sans obéissance devient stérile. Un acteur de Dieu vit pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Bon, la liste défile. All right. Souvent, là, une fois que tu vas avoir développé le don et tu es conscient du don que tu as, puis tu es appelé à un ministère quelconque, reste pas surpris si souvent ça s'opère dans l'ombre. Le Seigneur appelle beaucoup de nous à travailler sans que personne d'autre le sache. Ce n'est pas tous les grands personnages de la Bible là, qui ont été très visibles. Justement, Dieu voulant, la prochaine fois, je vais vous en partager un qui est tellement oublié dans la parole de Dieu. Je vais vous poser une question, puis dans 2 semaines, vous allez me répondre. Qui a bâti le tabernacle dans le désert? On va vous laisser là, puis on va en parler, Dieu voulant, la prochaine fois que je vous partage ça, parce que ça tourne sur cette idée ici. Il y en a qui sont appelés à un ministère, mais le travail qui se fait est vraiment à l'ombre. Personne ne va vous le savoir, ou peu de personnes vont le savoir. Il n'y aura pas de gloire attachée à ça, il n'y aura pas de rémunération attachée à ça, il n'y aura pas d'accolade attachée à ça. Personne ne viendra te frapper dans le dos pour dire « Hey, good job! » On va le faire sans que personne ne le sache. C'est un principe biblique. Qu'est-ce que le Seigneur, en nous parlant de la vie de prière, nous dit de faire? Va dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Dieu nous voit. C'est ça qui est important. On se rappelle le publicain puis le chef religieux là, qui priait. Ben, le chef religieux, il se vantait, il priait tellement haut, tout le monde l'écoutait. Merci Seigneur de m'avoir fait un homme. Merci Seigneur de m'avoir fait un leader religieux. Merci Seigneur. Et puis là, ça continuait, les accolades. Cherchait la lumière, cherchait la gloire, il cherchait le respect, il cherchait toutes sortes de choses. Puis le pauvre petit publicain, lui, à côté, là, il touchait sa poitrine, puis je suis coupable, je suis coupable, je suis un pécheur, Seigneur. Puis, le Seigneur nous rappelle jusqu'à quel point la prière du publicain était beaucoup plus importante que le péché de la prière de celui qui se vantait. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra, Matthieu 6,6 nous le dit. Beaucoup d'acteurs bibliques ont pleuré seuls, ont servi sans reconnaissance, ont semé sans voir la récolte. Dieu écrit l'histoire avec la vie cachée des personnes. Combien de fois qu'on lit les témoignages de personnes qui étaient des vrais soldats de la prière, une grand-maman qui prie pour des décennies pour un petit enfant qui ne connaissait pas le Seigneur, puis cet enfant-là vient au Seigneur à un moment donné à cause de la patience et la prière de sa chère grand-maman. Elle n'a pas fait ça à clarté, là, où est-ce que tout le monde la voyait prier. Là. Elle faisait ça en pleurant à côté de son lit, tout seul dans sa chambre. Pourquoi un acteur de Dieu ne meurt pas, ne meurt jamais? Si tu ne veux pas être oublié dans cette vie-là, fais ce que le Seigneur te donne à faire pour sa gloire. Puis là, on va se souvenir de toi. J'ai des personnes dans ma vie à moi, des mentors spirituels, des pères et des mères spirituels. Ce n'était pas mes parents naturels, là. Ils sont encore vivants. Ils sont longtemps partis, mais ils sont encore vivants. Ils sont vivants ici, dans ma pensée. Des gens qui ont pris soin de nous, qui nous ont encadrés, je pense en particulier dans mes années d'université, une monsieur puis une madame qui venaient de loin, là. Le campus n'était pas en ville. Là. À Sudbury, là, c'est au, l'autre bord du lac Ramsey, puis eux, ils vivaient à Nairn Center, c'était encore plus loin, là, c'est la route 17 en allant vers Sault-Sainte-Marie. Ils venaient nous chercher sur le campus, faisaient un grand détour pour nous apporter à l'église. Et après l'église, là, sans faute, ils ne nous ramenaient pas tout de suite à la maison. Ils nous amenaient chez eux ou au restaurant, au buffet, faire sûr que ces pauvres étudiants-là aient au moins un bon dîner, un bon souper. Mais avec tout ça, là, c'était tout ce que j'ai appris de la vie chrétienne de ces gens-là. Les versets que j'ai appris, les avis pour la vie, ils ne sont pas morts, ils sont encore vivants, parce que j'en suis témoin. Puis si je continue dans la vie chrétienne, puis ma vie bénit les gens autour de moi, puis ma famille, bien, ils vont vivre encore, parce que sans les avoir eus comme mentors dans ma vie, des personnes de confiance, peut-être je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Puis c'est ça le principe, parce que l'œuvre de Dieu dépasse la personne qui le fait. On n'oublie pas. Pensez à celle qui était au pied du Seigneur, qui lui lavait ses pieds avec ses larmes. Qu'est-ce que le Seigneur dit d'elle? Qu'est-ce qu'elle a fait là, par amour? Là? Ça ne sera jamais oublié pour les siècles à venir. C'est dans la parole de Dieu, ça va persister pour toujours. Cette histoire-là, qui semble pas tellement importante, nous a été donnée parce que quoi? Il y a eu une femme qui aimait tellement le Seigneur qu'il a lavé les pieds avec ses larmes tellement qu'elle était émue d'être dans sa présence. On ne sait pas le reste de sa vie, mais on ne l'oublie pas. Ça ne meurt pas, ça dépasse. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut, mais son œuvre continua. Deutéronome nous le dit au chapitre 34. Puis ici, il y a quelqu'un qu'on connaît assez bien, c'est Moïse. Hein, il y a des chapitres, son histoire, il est long. On nous donne beaucoup de détails. Mais comme je vous ai dit, il y en a d'autres, c'est dans l'ombre. L'acteur peut quitter la scène, mais le rôle accompli demeure. Moïse est mort, Josué continue, Élie disparaît, Élisée continue, les apôtres meurent, l'Église avance. Ça continue. Je ne sais pas si l'apôtre Paul prévoyait que l'œuvre qu'il a fait comme étant l'apôtre des païens pourrait envisager qu'est-ce que Dieu ferait avec, même 2000 ans plus tard. Je ne sais pas combien que le Seigneur lui a donné une appréciation de la suite des choses. Qu'est-ce qui va venir? L'Église universelle qui est encore ici aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Donc l'acteur ne meurt jamais car Dieu inscrit son rôle dans l'éternité. Dieu se souvient de ce qui a été fait pour lui. Dieu n'oublie pas qu'est-ce qu'on fait pour lui. Il l'a préparé pour nous, il nous a équipés pour le faire, mais il n'oublie pas du fait qu'on l'a fait. Comment on le sait? Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré, Hébreux 6:10. Et la preuve de ça, c'est quand le Seigneur viendra nous chercher au tribunal de Christ. Il va nous faire rappeler tout ce qu'on a fait pour lui, qui a été motivé par lui pour nous donner des couronnes de gloire. Il va nous donner des récompenses. Imaginez-vous, c'est lui qui nous a équipés, c'est lui qui a préparé l'œuvre. Tout ce qu'on a dit, c'est oui, et puis à la fin, il nous donne une récompense. Le monde oublie, les hommes passent, mais Dieu n'efface jamais l'obéissance fidèle. Et c'est pour ça que tout ce qui est fait pour Dieu ne meurt pas. L'acteur laisse une semence vivante. Ça, c'est l'espoir de chacun de nous dans une église locale. Quelle trace allons-nous laisser à Notre-Dame-du-Nord, à Guérin, à Rimini, dans la région, à Relais. Qu'est-ce qui va persister? Quand on pense à des ministères comme celui du camp, qui opère, je pense on arrive bientôt, quoi, 64, 65 ans, là, bientôt. Ça a persisté, ça continue, ça affecte des gens. Il y a des gens où ce que les parents ont envoyé leurs enfants, puis ces enfants-là vont envoyer leurs enfants parce que pour eux, ça a été quelque chose de positif dans leur vie. On laisse une semence vivante. On a un impact. Puis ça va persister, on va être parti, puis ça va continuer. Il n'y a pas un de nous qui a été indispensable. Un acteur de Dieu va transmettre, va former, puis va engendrer spirituellement. Il vit encore dans ceux qui l'ont édifié, ou elle a édifié. La récompense que j'ai mentionnée tantôt, elle est éternelle, les couronnes que nous allons recevoir. Timothée nous dit, j'ai combattu le bon combat, c'est Paul qui parle à Timothée, j'ai combattu le bon combat, la couronne de justice m'est réservée. Il sait déjà qu'il a déjà mérité une couronne. L'acteur de Dieu peut mourir physiquement, mais son œuvre est couronnée dans la gloire. Bon, on continue. Quatrième principe, le dernier, l'application au peuple de Dieu. Bon, c'est là où je reviens à cette pensée, là. Des fois, il faut laisser de côté l'idée, là, que le Seigneur va nous donner un don bienvoyant, puis on va être impliqué dans un grand ministère pour que ça compte. Des fois, on a l'idée que plus gros, c'est plus beau. C'est mieux. C'est meilleur. Chaque génération a besoin de ses acteurs. Tu n'es pas appelé à être tout, mais tu es appelé à être fidèle dans qu'est-ce que le Seigneur t'a donné ou ce qu'il t'a placé. On n'est pas tous appelés à être missionnaires puis aller dans des pays lointains. Puis des fois, on pense, ben, qui suis-je? Je fais rien d'important. dans ta petite famille. Une maman qui prend le temps de prier avec ses enfants. Un papa qui fait un culte en famille avec toute sa famille. Une famille qui vont ensemble à l'église, puis montre l'importance d'être assidus à l'église pour s'encourager les uns les autres. Parfois, notre ministère, là, c'est les deux petits bouts que tu as mis au monde, là. Ça, c'est ton ministère. C'est ton seul ministère. Tu es appelé à élever deux enfants, les élever dans la crainte de l'Éternel, de leur montrer comment aimer Dieu, de leur montrer qu'est-ce que c'est d'être sauvé par la foi, de leur montrer qu'est-ce que c'est d'être généreux, d'aimer, de ne pas être méchant, de les garder en sécurité, de bien les nourrir, de bien les encadrer. Pour certains, c'est le ministère, c'est l'ensemble, c'est ton ministère, c'est le seul ministère que t'es donné. Donc, oublie, ça n'a pas besoin d'être des grosses affaires. Mais parfois, je ne veux pas disqualifier non plus, des fois le Seigneur peut t'appeler à quelque chose de plus gros. Nos jeunesses qui viennent servir au camp, c'est un ministère. Le Seigneur t'appelle à ce ministère-là. On a besoin de vous. Et puis, si le Seigneur vous appelle à ce ministère-là, mais pensez pas que c'est pas important. Écoute, il y a des gens, des jeunes qui rentrent chez eux, qui connaissent le Seigneur Jésus, qu'ils ne connaissaient pas avant d'arriver au camp. Puis pourquoi? Parce que tu étais là, tu étais leur moniteur, leur monitrice. Tu peux penser, bon, c'était pas grand-chose, tu sais, couple de semaines au camp, il faisait beau, on jouait au lac, on avait bien du fun. Oui, mais dans ton fun, tu as aussi pris du temps pour prier avec un enfant, pour consoler un enfant qui pleurait sa mère, là, qui manquait ses parents. Que le ministère que le Seigneur nous confie soit grand, qu'il soit petit, l'important, c'est qu'on répond oui. On a tous un don. La Bible nous le dit que l'Esprit Saint donne à chacun des enfants de Dieu au minimum un don. Il peut t'en donner plus qu'un. Mais au minimum, tu as un don qui t'a été donné. Mets-le en action. Sois un acteur pour Dieu avec le don qu'il t'a donné pour le servir. Cherche d'être intègre aussi dans cette dévotion par rapport à la vocation que le Seigneur te donne. Ne cherche pas de gloire, cherche pas que quelqu'un te voie. On le mentionne souvent, là. Ceux qui lavent les toilettes au camp, là, sont aussi importants que ceux qui amènent la parole. Parce que le camp roule bien quand tout est propre. Mais des fois, on aurait tendance à dire, ben quoi, les toilettes, là, c'est pas important. Ben, pour ceux qui rentrent dans la salle de bain qui est propre pour prendre leur douche le matin, ils l'apprécient beaucoup. Puis ils voient des gens qui le font volontairement, sans se faire payer. C'est tout ça un témoignage. Des gens avec un beau sourire sur la face quand ils s'en vont laver la chambre de bain. Un beau sourire. Chantant des louanges tout en le faisant le travail. Peut-être que ce n'est pas le meilleur exemple, là. Mais anyway, je pense que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Comme église locale, nous, là je parle juste de nous, là, parce qu'on pourrait prendre tout ça là, puis appliquer ça à tous les chrétiens dans le monde. On est tous appelés à la même chose. Mais pour nous, pratiquement dans notre assemblée ici, où est-ce que Dieu nous a placés, si Dieu nous a placés ici, mais à quoi qu'il nous appelle? On est déjà ici. de la Colombie. Pourquoi le Seigneur a amené des gens de la Colombie jusqu'à Notre-Dame-du-Nord? C'est parce qu'ils ont des dons et ils vont bénir l'Église, ils vont bénir la communauté dans laquelle Dieu les a placés. Ils ne sont pas les seuls hispanophones, là. Il y en a d'autres. Ils ont besoin d'entendre l'Évangile, les autres. Puis là, on a Paula qui retourne en Colombie faire ses études. Mais dans ses études, elle a une responsabilité de faire valoir son don en Colombie. Puis l'Église ici va prier pour Paula afin qu'elle puisse utiliser le don qu'elle a pour bénir Dieu et être un beau témoignage de notre assemblée et de sa famille. C'est juste des beaux exemples que je veux vous partager parce que je veux vous inciter à réfléchir, de prendre du temps et avoir une conversation avec le Seigneur pour dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? » Puis de ne pas écouter la petite voix dans ta tête qui te dit, « Tu ne peux pas faire grand-chose. Je suis trop timide. Je suis trop ci, je suis trop ça. Je suis trop vieux, je suis trop vieille, je suis trop jeune. » On peut trouver toutes sortes d'excuses. Si tu es dans un milieu de travail, que tu sois l'Évangile pour ceux avec qui tu travailles, ils vont te voir et ils vont dire, il y a quelque chose avec ce gars-là. Des fois, ils vont dire, il est un peu curieux. Mais en même temps, ils vont dire, il semble qu'il y a la peste curieux-là. Nos étudiants dans vos salles de classe, avec vos profs, avec ceux de votre âge, vous êtes juste une petite mitaine, là. C'est pas comme votre école, c'est rempli de témoins pour le Seigneur. Donc, c'est pas nous, là, moi, ils ne me laisseront pas rentrer à l'école. Ils vont dire, c'est un étranger, là, puis c'est un vieux bonhomme, qu'est-ce qu'il fait ici, dans une école secondaire? C'est pas à moi d'évangéliser les étudiants à l'école des 15, c'est à vous de le faire. Moi, je ferai l'Évangile dans la maison des vieux. Anyway, que le Seigneur nous bénisse. Prenez du temps à réfléchir. Demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Prions. Quel confort, Seigneur, de savoir que tu nous équipes, que tu nous formes. Et Seigneur, que tu prends des vases d'argile, fragiles comme on est, pour faire une grande œuvre. Mais ta parole nous rappelle aussi, c'est toi le potier. C'est toi qui peux nous mouler. C'est toi qui peux nous affermir, nous bénir, et de bénir les autres qui nous entourent. Parce qu'on a simplement répondu, « Oui, Seigneur, j'y vais, je te suis. » Utilise-moi, même dans toute ma faiblesse, puis dans toutes mes épreuves, puis tous mes mauvais caractères, Seigneur, ben change ça en moi, puis donne-moi à te bénir. Merci, Seigneur, que tu nous as sauvés, que tu continues à sauver, que tu fais entrer dans ta famille à tous les jours de nouveau, puis tu bénis notre planète, notre humanité, avec ta présence. Même, Seigneur, dans un monde aussi fou que dans lequel on vit aujourd'hui, tu es encore là, tu es encore à l'œuvre. Et Seigneur, tu as un désir ardent pour nous utiliser dans ton œuvre. Donne à ton Église de répondre oui. Merci, Seigneur, de nous accompagner dans la semaine qui est devant nous, à tous les jours, dans tous nos milieux, dans tout ce que nous vivons. Sois avec ceux, Seigneur, qui sont éprouvés, qui ont des difficultés, ceux qui ont une santé fragile, ceux qui sont découragés. Sois avec eux. Pour notre sœur Paula, Seigneur, bénis-la dans ses études, dans son départ. Bénis cette famille, Seigneur, qui doivent dire au revoir à leur sœur et à leur fille. Bénis-nous. On se te le demande, Seigneur, dans ton nom exalté, Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis, mes frères.